Amis de Radio Occitanie, de la poésie, bonsoir, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Comme nous vous l'avions indiqué, je crois que c'était il y a 15 jours, nous avons le plaisir d'avoir de nouveau ce soir, dans nos studios de la rue de la Salie, Alem Suregarcia. Alem, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être revenu nous voir.
Avec plaisir.
Pour continuer cette émission que nous avons entamée il y a 15 jours, donc sur les orients d'Occitanie, au-delà des deux rives. Et ce soir, nous allons plus particulièrement parler de ce sujet que nous avions à peine effleuré la dernière fois, c'est-à-dire le midi, antichambre des orients, du méridional à l'indigène. Tout d'abord, je voudrais, avant d'entamer ce débat, faire rapidement quelques présentations de livres, comme j'ai l'habitude de le faire toutes les semaines. Alors, la première, c'est un rappel. Il s'agit du livre de Dominique Sampiero, « Avant la chair », qui paraît aux éditions Le Passeur. Alors, cette édition... Il dirige d'ailleurs la collection dans cette chez cet éditeur là, Le Passeur. Dominique Sampiero dirige donc une collection. Je ne sais pas quel est le titre exact de cette collection, je ne m'en souviens plus. Mais elle a une originalité qui est la suivante. C'est que le manuscrit du livre est adressé, avant d'être mis sous presse, à des lecteurs dans la foule, disons. Hein, et ces lecteurs écrivent également sur le sujet du livre. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Mmh. C'est très original, comme ça, vraiment, c'est vraiment étonnant. Et donc, il y a toute une part de ce livre qui est... La prose des lecteurs sur des lecteurs anonymes, par exemple Isabelle Franck, 48 ans, plasticienne, hein, qui parle du sujet de Avant la chair de Dominique Sampiero. Bon, alors de quoi s'agit-il dans Avant la chair de Dominique Sampiero? On va l'écouter. Dominique Sampiero, il dit: j'ai appris à vivre dans la lumière et le silence des récits, et grâce à eux, à aimer le silence des miens, père, mère et grands-parents surtout. Alors on est interpellé un peu, et je pense quand même, tu connais ce silence des anciens. Mmh. Tu as dû connaître ça dans les fermes aussi.
Oui, hein, oui.
C'était...
On ne parle pas beaucoup.
Ils ne parlent pas.
En fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, voilà, oui, du méridional dit,
oui,
volubile.
Oui, 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 oui. Donc il y a un mutisme, mais qui est un mutisme... codifié,
oui,
hein, qui veut dire où le non-verbal s'exprime avec une force assez étonnante. Hein, moi, je me souviens
de ça. Et
donc,
on connaît les contours par l'entourage.
Oui, oui,
ouais,
oui.
Ouais.
Oui. Et il y a la force, je me souviens, dans la ferme où j'étais l'été, là, dans la région du Mas d'Asile, c'est à 7 km du Mas d'Asile, dans les collines, ça s'appelait le Casterot. Il y avait une famille où on était 17 à table, 17 dans la table le soir. Et il y avait le grand-père, Daniel, il n'avait pas besoin de parler. Un simple regard, un simple geste, et tout le monde comprenait ce qu'il voulait. Et mon père, en définitive, a hérité aussi de ça, de cette espèce de silence, de mutisme.
D'économie de mots.
D'économie de mots, voilà, ouais, voilà. Et où le non-verbal l'emporte avec une force qui, ouais, aujourd'hui, évidemment, sèmerait un petit peu la panique, quoi.
Mmh. C'est une rumination, voilà, qui est propice à la pensée, mais on sait, oui, peut-être.
Voilà. Alors, lui parle de ça, parce qu'il a connu ça, a dénoué le silence des ombres, celui des objets, posés comme des guetteurs dans la maison, a consulté la quiétude d'un arbre ou de presque rien, d'un escargot, d'un pissenlit dans la haie, comme un oracle possible de ma présence au monde, dit-il, a aimé le rien, le rien du tout à force, l'invisible, et pourquoi pas dire ange ou âme, c'est là, c'est tout, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Alors c'est écrit dans une langue magnifique, hein, Avant la chair, de Dominique Sampiero, éditeur Le Passeur, 15 €. Et puis chez le même éditeur, il y avait bien sûr aussi le livre de Jean-Pierre Siméon, sur sa louange de la poésie. Parce que c'était déjà le titre de mémoire, c'est « La poésie sauvera le monde », voilà, oui, on va jusque-là, « La poésie sauvera le monde ». Et puis Jean-Michel Maulpois, « Le voyageur à son retour », donc toujours chez Le Passeur, collection de littérature, mais c'est un recueil poétique qui célèbre la joie infime des plaisirs partagés et les surprises liées au décentrement du voyage. Alors là, on n'est pas dans le silence, dans la parole, on est dans le voyage. Et il a une très belle phrase, il dit que, voyons, est-ce que c'est dans la... Oui, voilà. Mais tu l'as bien compris, dit-il, c'est pour cela que je m'en vais, que je m'envole, que j'en appelle au plus lointain. Ces étoiles du sol, ces feux roses de l'aube, ces forêts, ces rivages, ces toitures, la terre, la maison des hommes. Je ne connais pas de moment plus heureux que l'atterrissage, ces départs, après tout, n'ont pour objet que le retour. Alors, je crois que c'est très important ce qu'il dit, parce que voyager, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage, certes, mais le voyage n'a d'intérêt que parce qu'il y a le retour. Hein? Sinon c'est l'errance, s'il n'y a pas de retour. Et donc là il y a un très beau livre donc sur le voyage, toi qui es un voyageur aussi, mm-hmm. Je pense que tu dois partager ce sentiment.
Le voyage doit vous transformer normalement.
Voilà, il transforme, mais on retourne, on revient après s'être enrichi, après s'être transformé, et on revient justement, ce que tu disais il y a 15 jours, pour les influences aussi culturelles.
On ne revient pas indemne,
voilà, on ne peut pas revenir indemne, sinon c'est pas la peine de voyager, hein, si on ne va pas prendre d'influence ou avoir été influencé par son voyage. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir retrouver donc ce point de départ, hein. Sinon ben c'est une errance perpétuelle et ça aurait une dimension tragique s'il n'y avait pas ce retour. Alors Jean-Michel Maulpois saisit les émotions fugitives qui naissent de tous les sens. Lui, il examine alors tous les sens de ça. Chez lui, ce sont les voyages qui conduisent à l'éveil d'une sensibilité poétique tissée entre l'intime et le tangible. Après quelques années de silence, les mots du poète résonnent à nouveau dans ce livre « Le voyageur à son retour », comme les surprises liées au décentrement du voyage. En fin de volume, donc, on va trouver toujours ce fameux carnet dont des lecteurs qui accueillent l'écho qu'ils ont laissé dans leurs oreilles. Hein, c'est assez curieux comme démarche. Ouais. C'est une démarche assez singulière, assez déroutante. Mais bon, il y a, j'ai vu surtout chez Dominique Sampiero, des véritables créations poétiques chez les lecteurs. C'est vraiment étonnant. Alors, c'est au passeur et ça coûte également 15 €. Vous aurez tous les renseignements, bien sûr, sur notre site les-poètes.fr. Et puis, très vite, comme en poésie, le numéro 65 vient de paraître. C'est une revue trimestrielle de poésie. L'inutile poésie de tous les jours, y a-t-il en exergue. Bon, un numéro... très riche, très abondamment illustré aussi, très agréable, et qui inclut d'ailleurs dans le point de vue, donc les bonnes feuilles où il y a des critiques de livres, etc. Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir l'émission que nous avons donnée avec Serge Peille, réalisée avec Serge Peille, qui est reproduite dans ce livre, dans cette revue de poésie, où il y a aussi Roland Nadeau qui signe comme ce qui semblerait être comme une forme d'éditorial dont je parlerai certainement très bientôt, puisque j'ai demandé à Roland Nadeau, en ayant lu cet article, je lui ai demandé de venir nous en parler ici, au micro de Radio Occitanie. Voilà pour les annonces. Alors, Alem, nous allons reprendre notre émission sur les Orientes d'Occitanie, en rappelant que, pour le moment, il y a deux livres disponibles sur les Orients d'Occitanie, Au-delà des rives et les Orients d'Occitanie chez Médicis, qui vient d'être republié, réédité.
Hein. Dervi Médicis,
oui. Dervi Médicis,
voilà. Oui. L'autre jour, j'avais oublié la première partie.
Oui, Dervi Médicis, oui, oui. Oui. Et les clochers minarets chez Privat. Alors, nous espérons que le midi antichambre des Orients du méridional à l'indigène, dont nous allons parler, fera l'objet également d'une publication. Et, bon, assez rapidement.
Bien sûr.
Alors, parce que ça, on est là dans quelque chose qui nous interpelle, parce que, comme je pense on le disait la dernière fois, on a fini là-dessus, on n'est pas très loin de ce qui se disait, de ce qui se passait à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Le substrat yalouku.
Voilà, le substrat yalouku. Ouais. Et alors qu'il faut le secouer un peu, en tout cas, il faut avoir cette lucidité, cette conscience. Oui. Et toi, Alem, tu nous amènes cette conscience, qui est quand même magnifique, parce que, malgré tout, je suis désolé, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à voir cette analyse et à mettre le doigt en disant attention, voilà.
Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir quand même une certaine épaisseur d'histoire pour comprendre ce qui peut se passer. Si on raisonne à partir simplement de 20 ans d'histoire récente, on comprend rien.
On comprend pas. Et ça, c'est vrai d'une façon universelle.
Déjà, oui. Hein. Oui,
donc, gommer des passages entiers, comme je crois qu'on est en train de vouloir le faire, ouais, à l'éducation nationale, de l'histoire de France, ça peut avoir des conséquences tout à fait redoutables.
Ouais. Alors, d'autant plus qu'on est dans une histoire qui n'est même pas dans l'histoire de France.
Oui, qui plus est.
En plus.
Comme tu l'as bien indiqué dans ce livre « Au-delà des rives ». Alors, 19e siècle, donc on avait dit la dernière fois, l'époque romantisme, le romantisme est en marche, il parle d'Écosse, d'Angleterre, d'Allemagne, de la Grèce, de la Suisse. Bon, en France, nous avons Madame de Staël, qui déborde de cette passion romantique, il l'a fait connaître, etc. Et c'est dans cette passion romantique que on va redécouvrir, c'est une redécouverte, hein, du Moyen-Âge, donc des troubadours, de l'Andalous et bien sûr de l'Orient.
Voilà, c'est un mouvement commun, hein. En même temps, on découvre le Moyen-Âge, donc les troubadours, à l'Andalous. Il y a une logique, et avec Al-Andalus, l'Orient.
Oui.
Il y a une synergie entre ces recherches, ces quatre recherches.
Alors, qu'est-ce qu'on va retenir essentiellement, malgré tout, c'est le pittoresque.
Oui, parce que le pittoresque, c'est ce qui est digne d'être peint. Hein,
c'est le sens.
Et ça va devenir donc quelque chose à remarquer. Donc, mais on va s'attacher à certains types de pittoresques, comme on dit, certains types de populations, certains types, donc ce qui veut dire un ethnotype derrière. Ce qui est étrange pour des gens qui s'habillent pas pareil, qui ne parlent pas pareil, qui ne vivent pas pareil et qui ont un rapport au temps, à Dieu et à l'espace, complètement différent de l'esprit européen qui commence à devenir aussi en même temps, à s'industrialiser, hein, et pour qui le temps manque. Et donc, il y a besoin de contrebalancer peut-être cette débauche d'énergie
donc
et le
progrès. Il y aurait déjà une appréhension du temps différente.
Oui. Oui, parce que déjà on va dire que ce qui étonne les voyageurs, bon, les Européens qui voyagent en Orient, c'est que tout d'un coup, ce qu'on dit aujourd'hui à trop, que je considère que c'est une tarte à la crème, c'est que, ah oui, c'est comme si le temps s'était arrêté. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on entend sans arrêt, dans n'importe quel type d'émission. Et en fait, c'est pas vrai. Le temps ne s'est pas arrêté, c'est une autre, un autre rapport au temps, c'est tout.
Je crois que c'est Saint-Exupéry, quand il était dans le désert, dans cette base, où il disait, en parlant des Touaregs, que leur vérité était fonction aussi du moment, du lieu où ils étaient, et que dans un autre lieu et dans un autre moment, cette vérité allait changer.
Mmh.
Voilà. Donc là aussi, il y a une appréhension des choses qui est radicalement différente.
Si. Ah oui, bien sûr.
Leur nomadisme, etc., entraînait une perception de la vérité qui, différente.
Oui, à tel point qu'ils vont ne voir que le nomadisme qui est le plus antinomique. Mais en fait, ils oublient de regarder les situations urbaines et le mouvement qui se fait en dehors du fameux désert tant recherché par les orientalistes.
On est dans le pittoresque et on oublie donc tout le
Oui, il faut qu'il y ait un palmier, de toute façon, si possible un lion pas trop loin, assez loin quand même, pas trop proche, et puis un oued, hein, désespérément vide. Si un chasse, c'est bien d'avoir aussi un troupeau d'animaux avec un indigène qui est qui sent, on ne sait pas s'il dort ou pas, ou s'il contemple, et qui est adossé à un rocher, etc. Ça c'est voilà, ça c'est l'immuable, ce qui depuis la plus haute antiquité nous préserve de tous nos maux présents.
Alors, il y a l'attrait aussi de toutes les cultures populaires.
Alors, il y a l'attrait des cultures populaires. Ça, c'est vrai que un mouvement important est parti d'Allemagne, et notamment de ce qu'on a appelé l'école d'Iéna. Bien sûr, il y a Weimar, qui est pas très loin, où habitait Goethe. Hein, mais surtout à Iéna, qu'on va avoir... un couple de frères, les frères Schlegel, qui vont faire un travail énorme, qui vont dire c'est important l'Orient, ils vont dire en 1800, hein, c'est début, c'est en Orient que nous devons aller puiser le suprême romantisme. Et en même temps, ils vont s'intéresser aux cultures populaires, à la culture germanique des premiers temps, et donc ils vont tomber à la fois sur les légendaires allemands, hein, que Wagner va utiliser, hein, les Nibelungen, tout ça. La poésie populaire, bien sûr, et aussi la poésie savante des Minnesänger, et en travaillant sur les Minnesänger, automatiquement, ils abordent les troubadours. Et Schlegel a été un des vecteurs de cette connaissance auprès, justement, de notre cercle, qui est le cercle de Copé, pas loin de Genève, où il y a Madame de Staël et puis d'autres personnages qui vont échapper à l'Empire français de Napoléon.
Donc, auprès du cercle de François Copé.
De Copé. Copé, c'est la petite ville.
Ah, pardon. Oui, voilà. Parce que je ne comprends pas.
Copé.
Excusez-moi.
Voilà. Et donc là, se crée un cercle tout à fait intéressant avec un professeur et un chercheur qui s'appelle Sismondi et des Sismondi, qui lui va, une fois qu'il est aiguillonné par tous ses talents, va lui va faire des cours de civilisation, et il va être un des premiers à établir entre la poésie arabo-andalouse et la poésie occitane des troubadours un parallèle.
Alors, on arrive ensuite à l'orientalisme.
Alors, l'orientalisme, qui est une vision, bien sûr, particulière, on va rechercher ce que des rapports de voyage sont allés chercher avant vous, Et vous allez peut-être aussi quitter cette civilisation. Là, je parle de certains écrivains français du Nord qui commencent à critiquer un petit peu, surtout quand on est dans l'empire de Napoléon III, va critiquer un esprit bourgeois qui leur apparaît détestable et qui transforme tout et qui détruit. Hein? Et donc pour aller chercher de ce qu'on appelle l'authenticité ailleurs. Ce mot d'ailleurs est toujours employé aujourd'hui, authenticité, par le tourisme actuel, et on ne sait plus qu'est-ce qui est authentique ou pas authentique. En fait, hein. Donc là, il y a beaucoup de une forme d'orientalisme contemporain dans l'authentique. Hein. Il y aurait encore des paysans authentiques, une nourriture authentique. On ne sait pas.
C'est une idée marketing.
Oui, oui, c'est une idée marketing. Alors,
mais qui date déjà de
ce qui a oui, parce que l'authentique. Oui, parce qu'on recherche l'authentique, c'est-à-dire ce qui est différent de vous. Oui. En fait, ce que vous ne pratiquez pas et qui est encore pratiqué. Oui. Alors, est-ce que c'est répréhensible ou c'est ou pas? Et on voit des artistes français comme Flaubert ou d'autres qui vont tempêter un peu contre le changement, l'occidentalisation qui s'opère dans des villes comme Le Caire ou Alger. Hein, Daudet va tempester contre cette Alger moderne qui finalement n'est qu'un quartier de Belleville. Hein, voilà. Donc on tue quelque chose d'authentique, mais on l'a déjà tué en Provence ou en Languedoc. Hein, donc voilà. Parce qu'il se trouve que ce qu'on appelait le Midi, eh bien, c'est une marge entre la France du Nord qui se veut dynamique et l'Algérie qui va devenir la France. Eh bien, entre, il y a un territoire intermédiaire. Et c'est ça qui m'a intéressé, de savoir comment ce territoire des pays d'Oc était le passage obligatoire pour aller en Orient, il fallait bien aller sur Marseille, au moins, déjà, hein, pour partir. Et donc, déjà, ils entrevoient dans ce Midi, qui ne parle pas français, en tout cas pour tout, des couches populaires, un pays étrange qui leur apparaît un peu arriéré. Hein.
Donc on est déjà dans cet exotisme, l'exotisme commence donc...
Oui, commence là, et puis on a c'est des gens qui, que ce soit aussi bien Georges Sand ou autre, quand elle va au Baléares, par exemple, à Majorque, elle va avoir une attitude qui est celle aussi de Victor Hugo, quand il dit « tous ces pays n'ont pas d'histoire, c'est nous qui faisons l'histoire ». Parce que Victor Hugo a dit « l'Afrique n'a pas d'histoire », ce qui a été répercuté récemment à Dakar, par le discours de Henri Guénaud-Sarkozy. Donc, ils n'ont pas d'histoire, et en plus, on dit que ces peuples enfants, ça c'est Georges Sand qui cite ça, ces peuples enfants, que nous initierons quelques jours à une civilisation véritable. Ah voilà, on est dans un propos colonial. C'est-à-dire que l'orientalisme s'accompagne en très grande partie, je ne vais pas dire totalement, mais au colonialisme. C'est-à-dire à une dominance d'esprit que beaucoup, la plupart des philosophes et des écrivains français du Nord vont avoir cette attitude de domination. Alors il y a des exemples infinis. Hein, et qui font mal, toujours, sur les populations méridionales. Comme si elles n'étaient pas encore vraiment intégrées. Quand Georges Sand, encore elle, je la cite, va aux Pyrénées, puisque c'est le voyage, les Pyrénées sont cette frontière un peu mentale qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique commence aux Pyrénées. De l'autre côté, c'est l'Espagne, déjà c'est l'Andalouse, etc. C'est quelque chose qui échappe. Et comme les Pyrénées du Nord sont contingentes, sont juste... Donc, et qu'elle ne comprend pas les gens qui parlent, quelque chose qui est entre ce que disent la plupart des poètes. Cet occitan, ils ne disent pas occitan, ils ne disent même pas languedoc, mais un langage qui est entre l'italien, l'espagnol et l'arabe. Ça, tous disent ça. Donc, et quand en 1832, elle relate dans une lettre à un de ses amis, « Allez aux Pyrénées, alors vous serez dans un pays qui n'est ni la France ni l'Espagne, dans une contrée inculte qui n'appartient qu'à Dieu et aux chamois. Donc, il n'y a même pas de Pyrénéens. Les indigènes disparaissent. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit qu'on peut occuper ces pays, puisqu'il n'y a... Bon, il n'y a presque personne. Hein. Et puis, de toute façon, ce sont des gens souvent incultes.
Et donc, il n'y a aucun état de culpabilisation quelconque.
Non, ils sont au centre d'un système européo-centré. Et donc tout le reste, c'est pas au niveau de ce que eux ils sont. Donc ils espèrent apporter les meilleurs, les plus socialistes d'entre eux, on pourrait dire.
Oui. Alors voilà, c'est ça qui est quand même très étonnant. C'est que on peut dire que ce sont les esprits les plus progressistes cette époque-là.
Oui.
Qui vont développer ce que tu viens de dire.
Oui, oui. Bon. C'est amené...
Avec le recul que l'on en a maintenant, paraît tout à fait redoutable.
Oui, mais est-ce qu'on ne le pratique toujours pas?
Voilà, alors, oui, on va s'interroger dessus. Oui.
Voilà, oui. D'une façon ou d'une autre, mais ça c'est le problème, dès qu'on pense avoir une vérité. Et une vérité, pas plurielle, une vérité absolue. Oui.
Comme Jules Ferry, par exemple.
Jules Ferry, qui lui dit qu'il faut apporter nos mœurs. Il faut apporter nos mœurs, voilà. Notre drapeau, et surtout nos mœurs, à ces populations pour qu'elles sortent d'une sorte d'un endormissement séculaire. C'est nous qui allons réveiller en eux, sur le barbare, la barbarie dans laquelle ils végètent. On va les sortir de ça pour leur indiquer une voie pour à la place d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est un principe d'ailleurs religieux, hein, aussi également.
C'est ce que je veux dire. Hein. Oui, oui.
Voilà. Donc tout ça, c'est des missions qu'ils se sont données et ils ne voient pas tellement les contradictions des populations dans lesquelles ils sont. Ils ne connaissent pas leur culture ou ils vont avoir qu'un tamis particulier, une grille de lecture. Et cette grille de lecture, souvent pour les orientalistes, aussi bien les peintres que les autres, c'est d'aller chercher donc ce qui est immuable et ce qui est biblique. Donc on va, dans les vêtements qu'ils portent, on va retrouver des gestes antiques, etc. Mais en même temps, comme on aime beaucoup les ruines, aussi, à cette époque-là, on aime beaucoup les populations qui ont été victimes dans l'histoire. Mais quand Michelet découvre le Midi, mais par sa femme, hein, normalement, tout ce Midi si beau est néanmoins comparé au Nord, un pays de ruines. C'est un pays de ruines. Voilà. Vous y trouverez partout les ruines sur ruines, les camisards de Louis XIV sur les albigeois de Simon de Montfort, les sarrasins sur les Goths, sous ceci les Romains, les Ibères. Voilà. Donc on est, y a une épaisseur de temps, mais qui est finie, qui est un espace qui ne peut pas rebondir. Hein, s'il rebondit ou s'il y a de la recherche qui se fait sur ces formes d'archéologie, à ce moment-là, c'est les Occidentaux qui vont les faire, cette archéologie. Hein? Ça explique, en grande partie, ça ne justifie pas, mais le geste brutal qui s'est passé à Palmyre. Voilà, parce que ce sont beaucoup d'Occidentaux qui sont allés à la recherche de ça, etc. Donc ça, le geste a voulu atteindre quelque chose, et qu'on ne sait pas voir, qu'on ne veut pas voir, quelquefois. Ça, je dis bien, ça ne justifie pas.
Oui, bien sûr.
Hein?
Oui.
Voilà. Mais il y a des attitudes historiques, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir au moins 300 ans, 400 ans d'histoire derrière soi pour comprendre des gestes qui nous paraissent barbares, alors que nous-mêmes, nous avons notre propre barbarie, dont on a du mal à s'expurger.
Oui.
Puisque le barbare, de toute façon, c'est toujours l'autre. Hein? Voilà.
Oui, oui.
Dans n'importe quel sens qu'on soit.
Oui. Alors, c'est quand même assez effrayant ce que tu dis. Ça veut dire que au XIXe siècle, les esprits les plus éminents, comme Michelet, quand même, qui va
bouleverser
la conception de l'histoire, comment on raconte l'histoire, et qui va avoir sur l'histoire un regard de sociologue, hein, donc c'est-à-dire
d'ethnologue. Ils vont jouer les ethnologues. Les écrivains vont jouer les ethnologues.
Mais voit dans le Languedoc un pays qui n'a d'intérêt que par ses ruines, c'est-à-dire par ce qu'il a été à un moment donné.
Parce qu'il a été à un moment donné. Mais s'il a failli, C'est à cause de ses mollesses internes. Et ses mollesses sont orientales. Voilà, Flaubert, à peine arrive à Marseille, il va dire « L'air chaud qui circulait dans les rues sombres de Marseille m'apportait au cœur les mollesses orientales. » Déjà, on va... Et ça, c'est tout à fait intéressant aujourd'hui dans le retour du patriarcat auquel je suis très sensible aujourd'hui. C'est que il y a des pays et des cultures femmes et des cultures viriles. Et donc, le midi s'est abandonné aux mollesses du luxe, de la pluralité, de toutes ces vertus, en fait, des vertus, mais qui sont attribuées, des qualités ou pas, ou des défauts, qui sont attribués aux femmes, hein, et que l'on retrouve aujourd'hui d'une façon, alors là, assez extraordinaire. Et le midi a représenté un élément de faiblesse et lié au féminin. S'ils n'ont pas gagné à limite à murer, ben c'est parce qu'ils sont adonnés au plaisir, etc. Et alors qu'en face, on a des gens vraiment de vrais guerriers, hein, de vrais hommes, en fait.
Donc ça veut dire que le raffinement qui peut être considéré comme une qualité féminine...
Et oui, qui est liée en tout cas à la promotion de la femme, quelque part.
Oui.
C'est pour ça que dans les rangs de ce qu'on appelle le salafisme ou wahhabisme, la femme représente un danger énorme pour ce patriarcat-là. Et c'est pas nouveau. C'est ça qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui.
Oui. Alors malheureusement, c'est très d'actualité en plus ce que tu dis.
Oui, oui, oui. Hein? Ah, complètement. Complètement.
Et ce qu'on n'aurait pas dit il y a 30 ans.
Hein? Non. Hein? Non. On pouvait pas le voir. Ouais. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est évidemment dans les ethnotypes qu'on a mentionnés, c'est quand des gens comme Alexandre Dumas, déjà à Montélimar en 1840, il arrive là, il connaît pas. Donc, les gens ne parlent pas français. Les gens sont pas vraiment français. Quoi. Et il dit, cette nature demi-espagnole, demi-sarrasine, qui a besoin d'être étudiée longtemps pour être comprise. Voilà. C'est de l'ethnologie qui est proposée pour des gens qu'on ne comprend même pas. Et Huysmans, dans son ouvrage là-bas, dit « Les méridionaux sont des latins matinés d'arabes ». Donc il y a toujours ça derrière. Et il se trouve que, pourquoi, depuis la croisade contre les Albigeois, depuis la Reconquista espagnole, les idées, comme il y a des sentiments, des choses qui ont été écrites depuis longtemps, et qui résonnent, que les intellectuels reprennent, et qui vont faire du méridional un citoyen indigène. Parce que contrairement à l'indigène, vraiment, il est citoyen. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il y a des citoyens de première zone, de deuxième zone et de troisième zone. Et c'est très contemporain aussi. Voilà. Et le citoyen de troisième zone, eh bien, on peut le comparer facilement à l'indigène. Normalement, il n'a pas de nom. L'indigène, c'est l'indigène. Même chez Camus, c'est l'indigène.
Oui.
Et le méridional, c'est pas un nom. C'est quelqu'un qui habite une situation géographique. Il n'a pas de nom. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant et qui fait que on glisse du méridional, de l'ethnotype méridional, jusque à l'ethnotype de l'indigène, de façon tout à fait logique. Il n'y a pas, c'est une question de grade, de degré. C'est pas une question de fond. Il y a le français et puis l'algérien. Non, entre, il y a le méridional et l'indigène. Et c'est là qu'on comprend. Si on saute le maillon du méridional, on ne comprend pas.
Alors, l'indigène, tu as bien fait de dire ça. Par exemple, chez Camus, dans L'étranger,
oui,
l'indigène n'a pas de nom, hein, puisqu'il y a un roman maintenant
oui,
de... un écrivain algérien,
voilà, Kamel Daoud,
qui a fait
le point de vue opposé. Voilà, c'est très intéressant,
voilà, très intéressant.
Ah, oui.
Et alors là, tu en donnes une explication qui est tout à fait claire, hein,
ouais,
et qui s'applique tout à fait à notre population.
Oui, bien sûr, parce que on pourrait pas faire ce rapport si l'Algérie n'avait pas été la France. Ouais. Donc, ce qui veut dire une continuité territoriale. Et les textes disent, oui, il n'y a que la Méditerranée qui est un lac entre Marseille et Alger. Hein, c'est tout, c'est comme un bras de mer, mais c'est le même pays. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une gradation. Alors, comment on conçoit l'indigène, le méridional, puisque c'est parti de là. Il est feignant, il est rêveur, il est hypocrite, il est menteur, il est décadent, il est crédule, il est naïf, etc. Il a des moments de primitivité, d'animalité, il peut être irascible, ombrageux, il peut être fanatique, etc. Il est bruyant, indolent. Alors. Et c'est un peuple enfant qui manque de virilité. Il est lubrique et sensuel. Voilà. Ça, on va retrouver la même chose chez l'indigène nord-africain. Il est contemplatif, mais il est rusé, il est corrupteur, il est intrigant, il est trafiquant, il est décadent, il est léthargique, etc. Et si on prend un de ces éléments, par exemple, on prend sur la sauvagerie, l'animalité et la barbarie. Déjà, il faut penser que Madame de Sévigné, quand elle est allée à Grignan, elle vient dans un pays, comme elle dit, qui est aux portes de la barbarie. La barbarie, à l'époque, déjà Monaco fait partie de la barbarie, la berbérie, comme on pourrait dire, etc. Donc déjà, elle est inquiète. Et on va avoir toute une série, le préfet de l'Ariège en 1831, dans les hautes vallées de l'Ariège, il va dire, c'est aussi sauvage et aussi brutal, ils sont que les ours qu'ils élèvent. Voilà. Ça, c'est un préfet. Alexandre Dumas va dire, ces dents blanches et carnassières des méridionaux qui semble arraché aux mâchoires du jaguar. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'il n'est pas le seul à dire ça, on va dire ça aussi des dents blanches, des noirs, etc. Attention, ils peuvent mordre, ils sont dangereux. C'est que Fernandel va représenter bizarrement cette mâchoire-là, et que lui, c'est lui à qui on va faire jouer Ali Baba. Pas oublié, c'est pas quelqu'un d'autre, et qui en même temps va se permettre de chanter une chanson ignoble. Qui est sympathique comme ça a priori, et qui est la terre est trop basse pour travailler, etc. C'est-à-dire l'ethnotype qu'on veut, qu'on a créé, le méridional l'endosse. Parce que si vous acceptez d'être feignant, etc., et que on verra demain, hein, demain un autre jour, Inch'Allah, etc., eh bien, ça veut dire que les places sont prises pour les industrieux. Et les industrieux, ce sont les gens du nord de l'Europe. Donc on peut vous laisser au boule, c'est pas grave, etc. Mais vous êtes éliminé de la course à la production. Et on prend vos places. C'est fait pour ça, un ethnotype aussi. Et d'arriver à le faire admettre par les méridionaux eux-mêmes, comme on voit encore chez Pagnol et chez d'autres, et tous les films de l'entre-deux-guerres qui donnent du méridional, hein, comme l'indigène. Soit ils n'y sont pas, soit on prend un décor de ville, etc. Et puis, ils sont souvent, c'est des naïfs, c'est des idiots, qu'on voit encore dans des humoristes toulousains, aujourd'hui. Voilà, ça continue. Ou des humoristes marseillais ou de Nice. Je ne donne pas de nom. Qui continue ça, ils continuent la répétition d'un ethnotype qui n'est pas vrai, dans le fond. Mais on continue, parce que ça plaît à un type de société. Si, par l'indolence, quand on pense que, même plus tard, Armand Praviel, que tu connais certainement, dans les routes de Gascogne, j'ai noté la Gascogne, un peu sarrasine, voilà. Où l'on ne rêve ni ne travaille, mais où l'on paraisse et se dispute. Voilà, là on est dans les années 40-50. Ah. Même quand Stendhal va aborder dans ses voyages cette jolie langue provençale, mélange de latin et d'arabe, bon, hein, les Provençaux tenaient de leurs voisins, les Maures d'Espagne, cette manière agréable de prendre la vie. Voilà. Mais c'est ça qui fait, en même temps, que leur destin sera terminé parce qu'ils prennent trop de plaisir à regardez le soleil qui se couche, peut-être. Hein?
Alors, on en fait quand même des personnages sympathiques. Puisque, bon, le Fernandel,
oui, oui,
oui. Tous les personnages de...
Et c'est mieux qu'ils soient sympathiques pour encore pire, c'est pire.
Voilà. Alors, c'est ça qui est extraordinairement... Enfin, il y a une perversion...
Il y a une perversion. Ernest Renan va l'expliquer. Oui. Ça a été dit, par exemple, dans sa réforme intellectuelle et morale. Il va dire, notre étourderie, en France, vient du Midi. Et si la France n'avait pas entraîné le Languedoc et la Provence dans son cercle d'activité, nous serions sérieux, actifs, protestants, parlementaires. Notre fond de race est le même que celui des îles britanniques. Voilà, bon, donc c'est rédhibitoire. Hein, c'est rédhibitoire pour ça. Mais quand je parlais de la virilité tout à l'heure, ça c'est quelque chose que je vais exploiter, travailler, parce que c'est, on n'a pas vu tout à fait cet angle. Maupassant, quand il est, qu'est-ce qu'il dit de l'arabe ? L'arabe tient à la fois de l'enfant et de la femme. Voilà, c'est ce qui est. Et quand Eugène Garcin, un Provençal, mais qui a été opposé à Mistral, il dit, en parlant de la Provence, cette civilisation enfantine, charmante, ne peut s'élever à la virilité. Parce que c'est la France qui s'élève à la virilité. On ne fait pas attention quelquefois à ce genre de choses, mais aujourd'hui elles sont très très prégnantes. Bon, des personnages importants comme Lyoté, Dieu sait qu'il y a une figure positive en général. Bon, qu'est-ce que, et par rapport à, il était anti-méridional, comme, parce qu'il y a une époque très terrible pour ça. Il dit, je n'ai jamais pu regarder un Toulousain comme un compatriote. Très intéressant. Il parlait de Jaurès notamment, hein, qui était un peu au nid à cette époque-là. Mais ils sont Peggy, alors là, par rapport en parlant de Jaurès, dit, un pleutre, un fourbe parmi les fourbes, un grossier maquignon du midi. Voilà comment sont perçus, hein, dans ce 19e siècle et début 20e. Alors il y en a des tonnes, que ce soit même par rapport à la langue, qui est insupportable pour certains. Alexandre Dumas à Montélimar dit, à Montélimar, la langue altérée par l'accent, la langue française altérée par l'accent, et déjà quand on arrive à la palute, elle est changée en patois inintelligible. Voilà, c'est ça. Alors accent gras, quand Flora Tristan, par exemple, quand elle vient en Pays d'Oc, un accent atroce. Dans la bouche d'une femme, cela fait un effet repoussant. Voilà. Et on y est aujourd'hui dans ça, parce qu'on élimine de plus en plus l'accent. On ne supporte pas, dès qu'il est soi-disant prononcé, on ne supporte pas. Ce que j'ai entendu vis-à-vis de notre présidente de région, dans un café l'autre jour. Ah, mais cet accent est insupportable. Et vous voulez lequel ? Le vôtre, parce qu'il ne s'aperçoit pas que lui, il a un accent parisien. Il ne le voit pas. Et que je peux contrefaire. Non, lui. Et je le contrefais. Je dis, alors, pourquoi on accepterait le vôtre et pas celui-là ? Mais ça va loin, hein.
Ça va loin.
C'est une lutte terrible, hein.
Oui. Alphonse Daudet.
Oui. Alors Alphonse Daudet, c'est un
cas. De Tarascon.
C'est un cas. Oui. C'est un cas Daudet parce que il est originaire, bon, mais sûr de Nîmes. Il est parti très tôt sur Lyon parce que la famille cherchait du travail à son époque. C'est une histoire difficile qu'il a exprimée de façon intéressante dans Le Petit Chose. Le Petit Chose exprime une enfance difficile. Et il va garder ça en lui. Ouais. Et il va devenir ce qu'on appelle l'exemple de la haine de soi, qu'on appelle l'auto-odi en occitan. C'est lui qui va lancer le symbole du méridional vraiment alors, nul, comme pas possible, à travers Tartarin.
Tartarin de Tarascon.
Et Tartarin, c'est Tartare qu'il y a derrière. Hein, faut pas oublier. Au départ, ça devait s'appeler Barbarin. Mais comme il y avait barbare, de toute façon, comme il y avait une famille barbarin à Tarascon, il a changé en Tartarin. Mais ce qui est le plus terrible chez lui, donc il est menteur, il est naïf, il est etc. Bon, et on a dit, on a fini par dire, tout le monde en France est un peu de Tarascon à cause de lui. Ce qui est pas vrai et pas vrai en même temps. Mais on lance des choses comme ça. Mais le pire ouvrage qu'il a écrit, raciste et tout, c'est Port Tarascon, qui est beaucoup moins connu, et qui lui, alors, c'est quelque chose d'assez terrible, parce que il va s'attaquer à ce pauvre Tartarin qui veut lui aussi une colonie, comme les Français, il veut une colonie, alors on lui trouve des îles dans le Pacifique. Mais, et là, il va épouser une princesse qui est comme une guenon. Une princesse indigène, comme une guenon. Et donc, mais à la limite, ça, c'est pas grave, parce que lui, il avait l'habitude déjà de se frotter le nez, comme font les pygmées, ou comme font les. Déjà avec, donc il se frotte le nez, etc. Donc voilà le méridional, comment est vu à travers Tartarin. C'est lui qui a lancé en grande partie. Mais après, ça va devenir atroce, parce qu'avec la droite, qui va se mettre en querelle contre les méridionaux qui sont au pouvoir. il y a beaucoup de ministres à ce moment-là, il y a beaucoup de méridionaux, hein, surtout autour de Gambetta. Et puis c'est le parlementarisme qui est honni par la droite et l'extrême droite. Et il y a un type qui s'appelle Gaston Méry. Alors lui, ça, c'est quelque chose d'assez affreux, parce que il va faire un mélange, enfin pas le mélange, il va, oui, entre des, comment on appelle, entre, non, il va faire de l'antisémitisme en faisant de l'antiméridionalisme. Et ça, c'est assez extraordinaire. Il va dire, par exemple, car si les Juifs sont des accapareurs, là, on est hein, dans pas loin de 1900. Hein, voilà. Les méridionaux sont des envahisseurs. De leurs doigts crochus, les Juifs attirent tout à eux. Les méridionaux, eux, s'insinuent partout. Semblable au criquet d'Algérie, le méridional se faufile partout où il y a une parcelle de pouvoir à saisir, etc. etc. C'est une sorte de... Le midi s'étend maintenant comme un filet, une toile d'araignée monstrueuse sur le pays tout entier, une sorte de parasite vorace qui nous ronge et nous ruine, nous prend notre originalité, nous remplace et qui nous mangera tout entier si l'on y crie « gare ». Voilà. Et même des gens comme Maurras vont s'émettre, vont devenir anti-méridionaux aussi, également. Parce qu'ils vont faire de l'anti... le juif égal le méridional, à ce moment-là. Hein. Mais c'est des textes d'une grande violence. Hein. Le méridional est le bras droit de l'israélite. Ils ont le même nez. Le nez crochu de Polichinelle. Hein. Voilà. Et c'est... Tout est mis en place. Ce sont des gens qui sont lus. Hein. C'est dans la presse... normalement, dans les presses quotidiennes, tout ça.
Alors, c'est d'autant plus étonnant que à cette époque-là, quand même, il y a bon le radicalisme qui va triompher, et le radicalisme, c'est quand même des gens du Sud-Ouest.
Oui, qui vont apporter surtout la laïcité dans un sens. Hein, tout ce combat autour de Combes et de Jaurès, donc, et la séparation de l'Église de l'État. Donc, il y a toute une réaction contre ça. Et on va associer les méridionaux entiers avec ça. Quand Hippolyte Taine, déjà quand il était passé à Montpellier, va dégrader un petit peu déjà les méridionaux, comme tant d'autres. On dirait des Italiens, ce sont des polichinelles gentils. Les mots polichinelles reviennent régulièrement. Et pourtant, ils ne sont pas de même obédience politique. Mais tout ça passe. On comprend qu'ils aient reçu d'ailleurs une discipline et des maîtres. On comprend donc qu'il n'y ait pas eu l'indépendance occitane à l'époque.
C'est extraordinaire.
Voilà. Polichinelle. Voilà. Comme l'Italie, c'est un pays tombé qui reste en arrière des autres et ne remonte au niveau des autres que par le contact d'une administration et d'une civilisation étrangère. C'est l'explication même du colonialisme. Oui.
Alors, cette expression de Taine, polichinelle, c'est le pitre sympathique. C'est,
voilà.
On va trouver Fernandel.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Déjà, les prémices de ce qui allait se passer.
Et ce qui m'a toujours étonné, c'est jusqu'à quel point, et qui m'interroge toujours encore aujourd'hui, parce que c'est un système qui a fonctionné, jusqu'à ce au point que les méridionaux eux-mêmes ont intégré...
Et c'est ça qui est, même, qui est extraordinaire.
Toutes ces données. Donc, ce système raciste, a fonctionné. C'est-à-dire que si l'Algérie était restée française, les Algériens, au bout d'un moment, auraient été amenés à discréditer leur propre langue. Ils ne se comprennent pas d'un village à un autre. Encore, ça se dit aujourd'hui. J'ai entendu encore l'autre jour. Donc, pas se comprendre. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui nous dise les choses qu'il faut à faire et dans une langue qui ne soit pas un patois ou un dialecte quelconque.
Alors, c'est l'abbé Grégoire là, qui va intervenir aussi là.
Ah, ça, c'est la Révolution, parce que c'est vrai que là, il y a des ancêtres... parce que l'abbé Grégoire, c'est un abbé.
Oui.
Il faut pas oublier. Comme beaucoup d'abbés dits révolutionnaires, ils ont appris la philosophie, ils ont appris leurs lettres dans des écoles qui sont tenues par des religieux, comme les révolutionnaires. Hein. Faut pas imaginer. Or, le système théocratique qu'il y avait avant... Eh ben, il continue.
Oui.
Et donc, quand l'abbé Grégoire, on est à l'époque de la terreur, là, maintenant, hein, va dire il faut anéantir ces langues qui sont les restes des barbaries antérieures, etc. Anéantir, c'est pas rien. Pour un homme d'église, même révolutionnaire maintenant, ça veut dire quelque chose de fort. Ce sont des hérésies, ces langues sont hérétiques. Il a le langage de l'Inquisition qu'il a gardé. Et on n'a pas vu ça tellement, on n'a pas vu.
Et au 19e,
il y a des logiques.
On le met en pratique.
Ah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors sur la langue, c'est vrai que il y a là aussi énormément de textes. C'est une dépossession. Il faut arriver à ce que les gens se dépossèdent eux-mêmes. Quand on regarde déjà au 17e, qu'est-ce que c'est le mot patois, puisque dans le dictionnaire de Furetière, hein, c'est langage corrompu et grossier. Voilà, c'est ça la base. Et c'est un charabia, ça peut être. Or charabia, ça vient de l'arabe, al-garabia. Hein, donc quelque chose qui est un mélange. D'ailleurs, ça existait, l'algarabia, parce que c'était un mélange à la fois d'arabe, de catalan, d'occitan, d'aragonais, hein, oui, en Espagne. Voilà, c'est un mélange, c'est une langue lien. C'est ça qu'on oublie, la valeur de ça. Mais l'abbé Grégoire, bon, bien sûr, cassons ces instruments de dommages et d'erreurs. C'est pas rien. C'est une terreur linguistique qui se met en place. Quand, en 1837, le ministre de l'Enseignement dit qu'on tranche au vif dans cette antique transmission des patois et que chaque école soit une colonie de langue française en pays. C'est dit comme ça, c'est clair. Et quand, dans Le Messager, qui est un journal de 1840, qui est très lu à ce moment-là, détruisez si vous pouvez les ignobles patois des Limousins, des Périgourdins et des Auvergnats, forcez-les par tous les moyens possibles à l'unité de la langue, tous les moyens possibles, hein, la langue française comme à l'uniformité des poids et des mesures. Nous vous approuverons de grand cœur. Vous rendrez service à ces populations barbares et au reste de la France qui n'a jamais pu les comprendre. Il n'y a pas plus clair. Et nous, on a du mal à vouloir voir ça. Et ils ne sont pas seuls. Il y a plein d'exemples. Tout le monde est dans cette... tous les intellectuels. Jusqu'en 1860, pour quelqu'un à Béziers qui s'appelle Théodore Fusier, il dit quelque chose que aujourd'hui on peut toujours que certains redisent. Espérons que dans un avenir prochain, la langue française achèvera de détruire le millier de langues bâtardes qui, au XVIIIe siècle, ont transformé la France en une véritable Babel. Mais ça continue. Ça continue de façon assez extraordinaire parce que on a des gens comme aujourd'hui, hein, à l'Académie française, qui continuent à dire des choses semblables.
Notre secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Voilà. Et même des philosophes ou des ceux qui se prennent pour des philosophes comme le plus connu là, personne qui est très médiatisé lui par contre, Michel Onfray.
Oui.
Voilà. Onfray. Alors c'est vrai que avant lui, Céline.
Alors Céline. Oui.
En 1922, oui, avait dit des Occitans de l'époque, bâtards, méditerranéens dégénérés. Nervi, félibre gâteux, parasites arabiques, rien que pourriture, fainéantise, infect métissage négrifié. Non, là, je crois que bon, là. Mais il ne faisait que reprendre des choses qui étaient dans une droite, extrême droite de l'époque. Même Charlie Hebdo y est allé, hein, ça aussi, hein, en 1998. L'Académie française, elle est au premier rang souvent. Mais c'est un instrument de l'absolutisme français. Il y a une logique. Hein? Et même normalement, les révolutionnaires, certains y avaient pensé à éliminer l'Académie française, qui est un suppôt de l'absolutisme. Et comme il y avait des gens qui étaient à l'Académie française, etc., tout ça, donc, mais normalement, ça aurait dû disparaître, ça aurait été logique. Hein? Eh bien, on a Jean-Marie Rouard qui dit le terme langue pour les idiomes de région me paraît abusif. Il s'agit plutôt de patois, de dialecte. Preuve année qu'elles n'ont jamais produit de grandes œuvres littéraires, contrairement à la langue française. Alors là, tchac, tous les troubadours, tous les romantiques, tous les baroques, à la poubelle. Voilà. Et Michel Onfray, dans le dernier livre, Cosmos, ben là c'est assez incompréhensible qu'un philosophe dise des choses pareilles. Les langues régionales sont un outil de fermeture sur soi, une machine de guerre anti-universelle, autrement dit un dispositif tribal. On est en plein colonialisme. La langue régionale exclut l'étranger. Elle fonctionne comme un cheval de Troie de la xénophobie. Il connaît rien de ce qu'on fait, il connaît rien. Et puis, comment dit-on télévision et voiture électrique en occitan? Alors là, voilà, c'est le comble de la... C'est la philosophie française contemporaine. Enfin, voilà. C'est lamentable.
Alors, c'est extraordinaire parce que c'est encore une fois, ce sont les meilleurs esprits,
oui,
qui arrivent à véhiculer ça.
Oui, hein, souvent. Oui, oui.
Donc
on est
au 21e siècle. Oui. C'est un grand esprit du 21e siècle qui va véhiculer. Je pense en toute bonne foi en plus.
Oui, il croit.
C'est-à-dire
oui,
par
mais ignorance, par ignorance.
Complètement. Voilà. C'est ça, c'est cette ignorance.
Et c'est pour ça que le travail qui a été fait sur l'orientalisme et méridionalisme est intéressant.
Bien
parce
sûr.
Que il oui. permet de comprendre comment encore on est dans une situation post-coloniale.
Eh bien, écoute, il faut absolument que tu fasses ce livre parce que c'est quand même un cri de conscience.
Hein, ah oui.
Tu jettes là.
Oui, et puis, tu vois, ça répond à, on en a parlé la dernière fois, mais au dernier livre de Marc Ferraud, qui est un monsieur très âgé, mais qui est un jeune homme au niveau de la pensée, et l'aveuglement, le livre aveuglement, comment la France s'aveugle, elle ne voit pas l'avenir, elle ne voit pas l'évolution du monde contemporain, même là, les choses les plus graves qui puissent se passer aujourd'hui, parce qu'elle a occulté en elle-même des choses qui pourraient lui permettre de comprendre.
Espérons qu'elle se réveille, qu'elle comprenne. En tout cas, quelle est la date de ta prochaine conférence à l'EMA ?
Il y en a une, maintenant c'est dans 15 jours, je pense, qui est sur, justement, les Orients d'Occitanie 2, à la Maison d'Occitanie. C'est le jeudi, donc pas celui qui vient, mais celui d'après. Hein, dans 15 jours, à la Maison d'Occitanie. Donc, c'est sur clochers et minarets, un petit peu. Hein. C'est sur l'art gothique occitan et l'art mudéjar. Et là aussi, pareil, on comprend des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Merci beaucoup, Alem. Alors, l'ensemble des programmes, des conférences d'Alem Sureu-Garcia est sur notre site les-poètes.fr. Donc, tous les auditeurs peuvent aller le voir. Et nous espérons bien vite que nous aurons ce livre donc sur le méridional.
Bon, je vais y travailler tout de suite, Alem.
À l'indigène. En tout cas, merci beaucoup, Alem.
Merci à toi.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanio et de Racine in la Terre qui va nous succéder. Et nous vous disons à la semaine prochaine, à 17h.